Chapitre 7 et suivant. Usant d'une très vieille façon de dire, la citoyenne veuve Gamelin l'avait annoncé. À force de manger des châtaignes, nous deviendrons châtaignes. Ce jour-là, 13 juillet, elle et son fils avaient dîné à midi d'une bouillie de châtaignes. Comme ils achevaient cet austère repas, une dame poussa la porte et remplit soudain l'atelier de son éclat et de ses parfums. Évariste reconnut la citoyenne Rochemaure. Croyant qu'elle se trompait de porte et cherchait le citoyen Brotteau, son ami d'autrefois, il pensait déjà lui indiquer le grenier du ci-devant ou appeler Brotteau pour épargner à une femme élégante de grimper par une échelle de meunier. Mais il parut dès l'abord que c'était au citoyen Évariste Gamelin qu'elle avait affaire, car elle se déclara heureuse de le rencontrer et de se dire sa servante. Ils n'étaient point tout à fait étrangers l'un à l'autre. Ils s'étaient vus plusieurs fois dans l'atelier de David, dans une tribune de l'Assemblée, au Jacobin, chez le restaurateur Vénua. Elle l'avait remarqué pour sa beauté, sa jeunesse, son air intéressant. Portant un chapeau enrubanné comme un mirliton et empanaché comme le couvre-chef d'un représentant en mission, la citoyenne Rochemaure était en perruquée, fardée, mouchetée, musquée, la chair fraîche encore sous tant d'apprêts. Ces artifices violents de la mode trahissaient la hâte de vivre et la fièvre de ces jours terribles aux lendemains incertains. Son corsage à grands revers et à grandes basques, tout reluisant d'énormes boutons d'acier, était rouge sang, et l'on ne pouvait discerner, tant elle se montrait à la fois aristocrate et révolutionnaire, si elle portait les couleurs des victimes ou celles du bourreau. Un jeune militaire, un dragon, l'accompagnait. La longue canne de nacre à la main, grande, belle, ample, la poitrine généreuse, elle fit le tour de l'atelier et, approchant de ses yeux gris son lorgnon d'or à deux branches, elle examina l'étoile du peintre, souriant, se récriant, portée à l'admiration par la beauté de l'artiste et flattant pour être flattée. « Qu'est-ce ? » demanda la citoyenne. « Que ce tableau, si noble et si touchant, d'une femme douce et belle près d'un jeune malade ?» Gamelin répondit qu'il fallait y voir Oreste veiller par Électre, sa sœur, et que s'il avait pu achever, ce serait peut-être son moins mauvais ouvrage. Le sujet, ajouta-t-il, est tiré de l'Oreste de Ripide. Oui, j'avais lu dans une traduction déjà ancienne de cette tragédie une scène qui m'avait frappé d'admiration. Celle où la jeune Électre, soulevant son frère sur son lit de douleur, essuie l'écume qui lui souille la bouche, écarte de ses yeux les cheveux qui l'aveuglent et prie ce frère chéri d'écouter ce qu'elle lui va dire dans le silence des furies. Et en lisant et relisant cette traduction, je sentais comme un brouillard qui me voilait les formes grecques et que je ne pouvais dissiper. Je m'imaginais le texte original plus nerveux et d'un autre accent. Éprouvant un vif désir de m'en faire une idée exacte, j'allais prier M. Gueil, qui professait alors le grec au Collège de France, on se détend en 91, de m'expliquer certaines scènes mot à mot. Il me l'expliqua comme je le lui demandais, et je m'aperçus que les anciens sont beaucoup plus simples et plus familiers que l'on ne se l'imagine. Ainsi Électre dit à Oreste, « Frère chéri, que ton sommeil m'a causé de joie, veux-tu que je t'aide à te soulever ?» Et Oreste répond, « Oui, aide-moi, prends-moi, essuie ces restes d'écume attachés autour de ma bouche et de mes yeux. Mets ta poitrine contre la mienne et écarte mon visage, ma chevelure emmêlée, car elle me cache les yeux. » Tout plein de cette poésie si jeune et si vive, de ces expressions naïves et fortes, j'esquissais le tableau que vous voyez, citoyenne. Le peintre, qui d'ordinaire parlait si discrètement de ses œuvres, ne tarissait pas sur celle-là. encouragé par un signe que lui fit la citoyenne Rochemaure en soulevant son lorgnon, il poursuivit. Hennequin, à te taire, maître, les fureurs d'Oreste. Mais Oreste nous émeut encore plus dans sa tristesse que dans ses fureurs. Quelle destinée que la sienne! C'est par pitié filiale, par obéissance à des ordres sacrés qu'il a commis ce drame dont les dieux doivent l'absoudre, mais que les hommes ne pardonneront jamais. Pour venger la justice outragée, il a renié la nature, il s'est fait inhumain, il s'est arraché les entrailles. Il reste fier sous le poids de son horrible et vertueux forfait. Oui, c'est ce que j'aurais voulu montrer dans ce groupe du frère et de la sœur. Il s'approcha de la toile et la regarda avec complaisance. Certaines parties, dit-il, sont à peu près terminées. La tête et le bras d'Oreste, par exemple. C'est un morceau admirable, et Oreste vous ressemble, citoyen Gamelin. Vous trouvez ? Fit le peintre avec un sourire grave. Elle prit la chaise que Gamelin lui tendait. Le jeune dragon se tint debout à son côté, la main sur le dossier de la chaise où elle était assise. À quoi l'on pouvait voir que la révolution était accomplie, car, sous l'ancien régime, un homme n'eût jamais, en compagnie, touché seulement du doigt le siège où se trouvait une dame, formée par l'éducation aux contraintes, parfois assez rudes de la politesse, estimant d'ailleurs que la retenue gardée dans la société donne un prix singulier à l'abandon secret que, pour perdre le respect, il fallait l'avoir. Louise Machet de Rochemaure, fille d'un lieutenant des chasses du roi, veuve d'un procureur et, durant 20 ans, fidèle ami du financier Brotteau, des Ilettes, avait adhéré au principe nouveau. On l'avait vu en juillet 1790, bêcher la terre du champ de Mars. Son penchant décidé pour les puissances l'avait porté facilement des feuillants aux Girondins et aux Montagnards, tandis qu'un esprit de conciliation, une ardeur d'embrassement et un certain génie d'intrigue l'attachaient encore aux aristocrates et aux contre-révolutionnaires. C'était une personne très répandue, fréquentant guinguettes, théâtres, traiteurs à la mode, tripots, salons, bureaux de journaux, antichambres de comités. La révolution lui apportait nouveautés, divertissements, sourires, joies, affaires, entreprises fructueuses. Nouant des intrigues politiques et galantes, jouant de la harpe, dessinant des paysages, chantant des romances, dansant des danses grecques, donnant à souper, recevant de jolies femmes, comme la comtesse de Beaufort et l'actrice des coins, tenant toute la nuit table de 31 et le biribi, et faisant rouler le rouge et la noire, elle trouvait encore le temps d'être pitoyable à ses amis. Curieuse, agissante, brouillonne, frivole, connaissant les hommes, ignorant les foules, aussi étrangère aux opinions qu'elle partageait qu'à celles qu'il lui fallait répudier, ne comprenant absolument rien à ce qui se passait en France, elle se montrait entreprenante, hardie et toute pleine d'audace, par ignorance du danger et par une confiance illimitée dans le pouvoir de ses charmes. Le militaire qui l'accompagnait était dans la fleur de la jeunesse. Un casque de cuivre garni d'une peau de panthère et la crête ornée de chenilles ponceaux ombrageait sa tête de chérubin et répandait sur son dos une longue et terrible crinière. Sa veste rouge, en façon de brassière, se gardait de descendre jusqu'aux reins pour n'en pas cacher l'élégante cambrure. Il portait à la ceinture un énorme sabre dont la poignée en bec d'aigle resplendissait. Une culotte à pont d'un bleu tendre moulait les muscles élégants de ses jambes, et des soutages d'un bleu sombre dessinaient leurs rides arabesques sur ses cuisses. Il avait l'air d'un danseur costumé pour quelque rôle martial et galant, dans Achille à Syros ou Les Noces d'Alexandre, par un élève de David attentif à serrer la forme. Gamelin se rappelait confusément l'avoir déjà vu. C'était en effet le militaire qu'il avait rencontré 15 jours auparavant, haranguant le peuple sur les galeries du Théâtre de la Nation. La citoyenne Rochemaure le nomma. Le citoyen Henri, membre du comité révolutionnaire de la section des droits de l'homme. Elle l'avait toujours dans ses jupes, miroir d'amour et certificat vivant de civisme. La citoyenne félicita Gamelin de ses talents et lui demanda s'il ne consentirait pas à dessiner une carte pour une marchande de mode à qui elle s'intéressait. Il y traiterait un sujet approprié, une femme essayant une écharpe devant une psyché, par exemple, ou une jeune ouvrière portant sous son bras un carton à chapeau. Comme capable d'exécuter un petit ouvrage de ce genre, on lui avait parlé du fils Fragonard, du jeune Ducis et aussi d'un nommé Prudhomme, mais elle préférait s'adresser au citoyen Évariste Gamelin. Toutefois, elle n'en vint sur cet article à rien de précis, et l'on sentait qu'elle avait mis cette commande en avant uniquement pour engager la conversation. En effet, elle était venue pour toute autre chose. Elle réclamait du citoyen Gamelin un bon office. Sachant qu'il connaissait le citoyen Marat, elle venait lui demander de l'introduire chez l'ami du peuple avec qui elle désirait avoir un entretien. Gamelin répondit qu'il était un trop petit personnage pour la présenter à Marat, et que du reste, elle n'avait que faire d'un introducteur. Marat, bien qu'accablé d'occupation, n'était pas l'homme invisible qu'on avait dit. Et Gamelin ajouta, « Il vous recevra, citoyenne, si vous êtes malheureuse, car son grand cœur le rend accessible à la fortune et pitoyable à toutes les souffrances. Il vous recevra si vous avez quelques révélations à lui faire intéressant le salut public. Il a voué ses jours à démasquer les traîtres. » La citoyenne Rochemaure répondit qu'elle serait heureuse de saluer en Marat un citoyen illustre qui avait rendu de grands services au pays, qui était capable d'en rendre de plus grands encore et qu'elle souhaitait mettre ce législateur en rapport avec des hommes bien intentionnés, des philanthropes favorisés par la fortune et capables de lui fournir des moyens nouveaux de satisfaire son ardent amour de l'humanité. « Il est désirable, ajouta-t-elle, de faire coopérer les riches à la prospérité publique. » De vrai, la citoyenne avait promis au banquier Morhart de le faire dîner avec Marat. Morhart, suisse comme l'ami du peuple, avait lié parti avec plusieurs députés à la convention. Julien de Toulouse, Delaunay d'Angers et l'ex-capucin Chabot pour spéculer sur les actions de la Compagnie des Indes. Le jeu très simple consistait à faire tomber ses actions à 650 livres par des motions spoliatrices, afin d'en acheter le plus grand nombre possible à ce prix, et de les relever ensuite à 4000 ou 5000 livres par des motions assurantes. Mais Chabot, Julien, Delaunay étaient percés à jour. On suspectait Lacroix, Fabre d'Églantine et même Danton. L'homme de l'Agio, le baron de Batz, cherchait de nouveaux complices à la convention et conseillait au banquier Morhart de voir Marat. Cette pensée des agioteurs contre-révolutionnaires n'était pas aussi étrange qu'elle semblait tout d'abord. Toujours ces gens-là s'efforçaient de se liguer avec les puissances du jour, et par sa popularité, par sa plume, par son caractère, Marat était une puissance formidable. Les Girondins sombraient, et les Dantonistes battus par la tempête ne gouvernaient plus. Robespierre, l'idole du peuple, était d'une probité jalouse, soupçonneux et ne se laissait point approcher. Il importait de circonvenir Marat, de s'assurer sa bienveillance pour le jour où il serait dictateur, et tout présageait qu'il le deviendrait. Sa popularité, son ambition, son empressement à recommander les grands moyens. Et peut-être même, après tout, que Marat rétablirait l'ordre, les finances et la prospérité. Plusieurs fois, il s'était élevé contre les énergumènes qui renchérissaient sur lui de patriotisme. Depuis quelque temps, il dénonçait les démagogues, presque autant que les modérés. Après avoir excité le peuple à pendre les accapareurs dans leurs boutiques pillées, il exhortait les citoyens au calme et à la prudence. Il devenait un homme de gouvernement. Malgré certains bruits qu'on semait sur lui comme sur tous les autres hommes de la Révolution, ces écumeurs d'or ne le croyaient pas corruptible, mais ils le savaient vaniteux et crédule. Ils espéraient le gagner par des flatteries et surtout par une familiarité condescendante qu'ils croyaient de leur part la plus séduisante des flatteries. Ils comptaient, grâce à lui, souffler le froid et le chaud sur toutes les valeurs qu'ils voudraient acheter et revendre, et le pousser à servir leurs intérêts en croyant n'agir que dans l'intérêt public. Grande appareilleuse, bien qu'elle fût encore dans l'âge des amours, la citoyenne Rochemaure s'était donné la mission de réunir le législateur journaliste au banquier, et sa folle imagination lui représentait l'homme des caves, aux mains encore rougies du sang de septembre, engagé dans le parti des financiers dont elle était l'agent, jeté par sa sensibilité même et sa candeur en plein agio, dans ce monde qu'elle chérissait d'accapareurs, de fournisseurs, d'émissaires de l'étranger, de croupiers et de femmes galantes. Elle insista pour que le citoyen Gamelin la conduisît chez l'ami du peuple, qui habitait non loin, dans la rue des Cordeliers, près de l'église. Après avoir fait un peu de résistance, le peintre céda aux vœux de la citoyenne. Le dragon Henri, invité à se joindre à eux, refusa, alléguant qu'il entendait garder sa liberté, même à l'égard du citoyen Marat, qui sans doute avait rendu des services à la République, mais maintenant faiblissait. N'avait-il pas dans sa feuille conseillé la résignation au peuple de Paris ? Et le jeune Henri, d'une voix mélodieuse, avec de longs soupirs, déplora la République trahie par ceux en qui elle avait mis son espoir. Danton repoussant l'idée d'un impôt sur les riches, Robespierre s'opposant à la permanence des sections, Marat, dont les conseils pusillanimes brisaient l'élan des citoyens. « Oh ! S'écria-t-il, que ces hommes paraissent faibles auprès de Leclerc et de Jacques Roux. Roux, Leclerc, mais vous êtes les vrais amis du peuple !» Gamelin n'entendit point ces propos, qu'il eût indigné. Il était allé dans la pièce voisine passer son habit bleu. « Vous pouvez être fier de votre fils, » dit la citoyenne Rochemaure à la citoyenne Gamelin. « Il est grand, par le talent et par le caractère. » La citoyenne veuve Gamelin donna en réponse un bon témoignage de son fils, sans toutefois s'enorgueillir de lui devant une dame de haut parage, car elle l'avait appris dans son enfance que le premier devoir des petits est l'humilité envers les grands. Elle était encline à se plaindre, n'en ayant que trop sujet, et trouvant dans ses plaintes un soulagement à ses peines. Elle révélait abondamment ses maux à ceux qu'elle croyait capables de les soulager. Et Madame de Rochemaure lui semblait de cela. Aussi, mettant à profit l'instant favorable, elle conta tout d'une haleine la détresse de la mère et du fils, qui tous deux mouraient de faim. On ne vendait plus de tableaux. La Révolution avait tué le commerce comme avec un couteau. Les vivres étaient rares et hors de prix. Et la bonne dame expédiait ses lamentations avec toute la volubilité de ses lèvres molles et de sa langue épaisse, afin de les avoir dépêchées toutes quand elle reparaîtrait son fils, dont la fierté n'eut point approuvé de telles plaintes. Elle s'efforçait d'émouvoir, dans le moins de temps possible, une dame qu'elle jugeait riche et répandue, et de l'intéresser au sort de son enfant. Et elle sentait que la beauté d'Évariste conspirait avec elle pour attendrir une femme bien née. En effet, la citoyenne Rochemaure montra de la sensibilité. Elle s'émut à l'idée des souffrances d'Évariste et de sa mère et rechercha les moyens de les adoucir. Elle ferait acheter les ouvrages du peintre par des hommes riches de ses amis. « Car, dit-elle en souriant, il y a encore de l'argent en France, mais il se cache. » Mieux encore, puisque l'art était perdu, elle procurait à Évariste un emploi chez Mohart ou chez les frères Perregaux, ou une place de commis chez un fournisseur aux armées. Puis elle songea que ce n'était pas cela qu'il fallait à un homme de ce caractère. Et après un moment de réflexion, elle fit signe qu'elle avait trouvé. Il resta à nommer plusieurs jurés au tribunal révolutionnaire. Jurés, magistrats, mais voilà ce qui convient à votre fils. Je suis en relation avec les membres du comité de salut public. Je connais Robespierre l'aîné. Son frère soupe très souvent chez moi. Je leur parlerai. Je ferai parler à Montané, à Dumas, à Fouquier. La citoyenne Gamelin, émue et reconnaissante, mit un doigt sur sa bouche. Évariste rentrait dans l'atelier. Il descendit, avec la citoyenne Rochemaure, l'escalier sombre dont les degrés de bois et de carreaux étaient recouverts d'une crasse antique. Sur le pont-neuf, où le soleil déjà bas allongeait l'ombre du piédestal qui avait porté le cheval de bronze et que pavoisaient maintenant les couleurs de la Masson, une foule d'hommes et de femmes du peuple écoutait, par petits groupes, des citoyens qui parlaient à voix basse. La foule, consternée, gardait un silence coupé par intervalles de gémissements et de cris de colère. Beaucoup s'en allaient d'un pas rapide vers la rue de Thionville, ci-devant rue Dauphine. Gamelin, s'étant glissé dans un de ces groupes, entendit que Marat venait d'être assassiné. Peu à peu, la nouvelle se reconfirmait et se précisait. Il avait été assassiné dans sa baignoire par une femme venue exprès de Caen pour commettre ce crime. Certains croyaient qu'elle s'était enfuie, mais la plupart disaient qu'elle avait été arrêtée. Ils étaient là, tous, comme un troupeau sans berger. Ils songeaient. Marat, sensible, humain, bienfaisant. Marat n'est plus là pour nous guider, lui qui ne s'est jamais trompé, qui devinait tout, qui osait tout révéler. Que faire, que devenir? Oh, nous avons perdu notre conseiller, notre défenseur, notre ami. Il savait d'où venait le coup et qui avait dirigé le bras de cette femme. Il gémissait. Marat a été frappé par les mains criminelles qui veulent nous exterminer. Mais sa mort est le signal de l'égorgement de tous les patriotes. On rapportait diversement les circonstances de cette mort tragique et les dernières paroles de la victime. On faisait des questions sur l'assassin dont on savait seulement que c'était une jeune femme envoyée par les traîtres fédéralistes. Montrant les ongles et les dents, les citoyennes vouaient la criminelle au supplice et, trouvant la guillotine trop douce, réclamaient pour ce monstre le fouet, la roue, l'écartèlement, imaginaient des tortures nouvelles. Des gardes nationaux en armes traînaient à la section un homme à l'air résolu. Ses vêtements étaient en lambeaux, des filets de sang coulaient sur sa face pâle. On l'avait surpris, disant que Marat avait mérité son sort, en provoquant sans cesse au pillage et au meurtre. Et ça avait été à grand-peine que les miliciens l'avaient soutenu à la fureur soustraite, à la fureur populaire. On le désignait du doigt comme un complice de l'assassin, et des menaces de mort s'élevaient sur son passage. Gamelin restait stupide de douleur. De maigres larmes séchaient dans ses yeux ardents. À sa douleur filiale se mêlait une sollicitude patriotique et une piété populaire qui le déchiraient. Il songeait. Après le Pelletier, après Bourdon, Marat. Je reconnais le sort des patriotes. Massacrés au Champ de Mars, à Nancy, à Paris, ils périront tous. Et il songeait au traître Wimpfen, qui naguère encore à la tête d'une horde de 60 000 royalistes, marchait sur Paris et qui, s'il avait été arrêté à Vernon par les braves patriotes, eût mis à feu et à sang la ville héroïque et condamnée. Et combien de périls encore, combien de projets criminels, combien de trahisons que la sagesse et la vigilance de Marat pouvaient seuls connaître et dissuader. Qui saurait, après lui, dénoncer Custine, oisive dans le camp de César et refusant de débloquer Valenciennes, Biron inactif dans la base Vendée, laissant prendre Saumur et assiéger Nantes, Dion trahissant la patrie dans l'Argonne. Cependant, autour de lui, de moment en moment, grandissait la clameur sinistre. Marat est mort, les aristocrates l'ont tué. Comme le cœur gros de douleur et de haine et d'amour, qui s'en allait rendre un hommage funèbre aux martyrs de la liberté, une vieille paysanne, qui portait la coiffe limousine, s'approcha de lui et lui demanda si ce monsieur Marat, qui avait été assassiné, n'était pas monsieur le curé Marat de Saint-Pierre de Kerouac. La veille de la fête, par un soir tranquille et clair, Élodie, au bras d'Évariste, se promenait sur le champ de la Fédération. Des ouvriers achevaient en hâte d'élever des colonnes, des statues, des temples, une montagne, un autel. Des symboles gigantesques, l'Hercule populaire brandissant sa massue, la nature abreuvant l'univers à ses mamelles inépuisables, se dressaient soudain dans la capitale en proie à la famine, à la terreur, écoutant si l'on n'entendait pas sur la route de Beau les canons autrichiens. La Vendée réparait son échec devant Nantes par des victoires audacieuses. Un cercle de fer, de flammes et de haine entourait la grande cité révolutionnaire. Et cependant, elle recevait avec magnificence, comme la souveraine d'un vaste empire, les députés des assemblées primaires qui avaient accepté la Constitution. Le fédéralisme était vaincu. La République une, indivisible, vaincrait tous ses ennemis. Étendant le bras sur la plaine populeuse, « C'est là, dit Évariste, que le 17 juillet 91, l'infâme bailli fit fusiller le peuple au pied de l'autel de la patrie. Le grenadier Passavant, témoin du massacre, rentra dans sa maison, déchira son habit et s'écria « J'ai juré de mourir avec la liberté, elle n'est plus, je meurs. » Il se brûla la cervelle. Cependant, les artistes et les bourgeois paisibles examinaient les préparatifs de la fête et on lisait sur leur visage un amour de la vie aussi morne que leur vie elle-même. Les plus grands événements, en entrant dans leur esprit, se rapetissaient à leur mesure et devenaient insipides comme eux. Chaque couple pâlait, portant dans ses bras ou traînant par la main ou faisant courir devant lui des enfants qui n'étaient pas plus beaux que leurs parents et ne promettaient pas de devenir plus heureux, et qui donneraient la vie à d'autres enfants aussi médiocres qu'eux en joie et en beauté. Et parfois, l'on voyait une jeune fille, grande et belle, qui, sur son passage, inspirait aux jeunes hommes un généreux désir et aux vieillards le regret de la douce vie. Près de l'école militaire, Évariste montra à Élodie des statues égyptiennes dessinées par David d'après les modèles romains de l'époque d'Auguste. Ils entendirent alors un vieux Parisien poudré s'écrier « Mais on se croirait sur les bords du Nil !» Depuis 3 jours qu'Élodie n'avait vu son ami, de graves événements s'étaient passés à l'amour-peintre. Le citoyen Blaise avait été dénoncé au comité de sûreté générale pour fraude dans les fournitures. Heureusement que le marchand d'estampes était connu dans sa section. Le comité de surveillance de la section des Pics s'était porté garant de son civisme auprès du comité de sûreté générale et l'avait pleinement justifié. Ayant compté cet événement avec émotion, Élodie ajouta « Oh, nous sommes tranquilles maintenant, mais l'alerte a été chaude. Il s'en est fallu de peu que mon père n'ait été mis en prison. Oh, si le danger avait duré quelques heures de plus, je serais allé vous demander, Évariste, de faire auprès de vos amis influents des démarches en sa faveur. » Évariste ne répondit pas. Élodie fut bien loin de mesurer la profondeur de ce silence. Ils allèrent, la main dans la main, le long des berges de la Seine. Ils se disaient leur mutuelle tendresse dans le langage de Julie et de Saint-Preux. Le bon Jean-Jacques leur donnait les moyens de peindre et d'orner leur amour. La municipalité avait accompli ce prodige de faire régner pour un jour l'abondance dans la ville affamée. Une foire s'était installée sur la place des Invalides, au bord de la rivière. Des marchands vendaient dans des baraques des saucissons, des cervelas, des andouilles, des jambons couverts de laurier, des gâteaux de Nanterre, des pains d'épices, des crêpes, des pains de 4 livres, de la limonade et du vin. Il y avait aussi des boutiques où l'on vendait des chansons patriotiques, des cocardes, des rubans tricolores, des bourses, des chaînes de laiton et toutes sortes de menus joyaux. S'arrêtant à l'étalage d'un humble bijoutier, Évariste choisit une bague en argent où l'on voyait en relief la tête de Marat entortillée d'un foulard. Il la passa au doigt d'Élodie. Gamelin se rendit ce soir-là rue de l'Arbre Sec chez la citoyenne Rochemaure qu'il avait mandée pour affaires pressantes. Il la trouva dans sa chambre à coucher, étendue sur une chaise longue, en déshabillé galant. Tandis que l'attitude de la citoyenne exprimait une voluptueuse langueur, autour d'elle, tout disait ses grâces, ses yeux, ses talents. Une harpe près du clavecin entr'ouvert, une guitare dans un fauteuil, un métier à broder où était montée une étoffe de satin, sur la table une miniature ébauchée, des papiers, des livres, une bibliothèque en désordre, comme ravagée par une belle main aussi avide de connaître que de sentir. Elle lui donna sa main à baiser et lui dit « Salut, citoyen juré. Aujourd'hui même, Robespierre, l'aîné, m'a remis une lettre en votre faveur pour le président Hermann, une lettre très bien tournée qui disait à peu près « Je vous indique, le citoyen Gamelin, recommandable par ses talents et par son patriotisme, je me suis fait un devoir de vous annoncer un patriote qui a des principes et une conduite ferme dans la ligne révolutionnaire. Vous ne négligerez pas l'occasion d'être utile à un républicain. » Alors j'ai porté sans débrider cette lettre au président Hermann, qui m'a reçu avec une politesse exquise et a aussitôt signé votre nomination. C'est chose faite. » Gamelin, après un moment de silence, « Citoyenne, dit-il, bien que je n'ai pas un morceau de pain à donner à une mère, je jure sur mon honneur que je n'accepte les fonctions de juré que pour servir la République et la venger de tous ses ennemis. » La citoyenne jugea le remerciement froid et le compliment sévère. Elle soupçonna Gamelin de manquer de grâce, mais elle aimait trop la jeunesse pour ne pas lui pardonner quelque âpreté. Gamelin était beau, elle lui trouvait du mérite. « On le façonnera, songeait-elle. » Et elle l'invita à ses soupers. Elle recevait chaque soir après le théâtre. « Vous rencontrerez chez nous à des gens d'esprit et de talent. Elviou, Talma, le citoyen Vigé, qui tourne les bourrimets avec une habileté merveilleuse. » Le citoyen François nous a lu sa Pamela, qu'on répète en ce moment au Théâtre de la Nation. Le style en est élégant et pur, comme tout ce qui sort de la plume du citoyen François. La pièce est touchante, elle nous a fait verser des larmes. C'est la jeune Lange qui tiendra le rôle de Pamela. « Je m'en rapporte à votre jugement, citoyenne, répondit Gamelin. Mais le Théâtre de la Nation est peu national. Et il est fâcheux pour le citoyen François que ses ouvrages soient portés sur ces planches avilies par les vers misérables de l'AIA. On n'a pas oublié le scandale de l'ami des lois. « Mais, citoyen Gamelin, je vous abandonne l'AIA. Il n'est pas de mes amis. » Ce n'était point par bonté pure que la citoyenne avait employé son crédit à faire nommer Gamelin un poste envié. Après ce qu'elle avait fait et ce que d'aventure il adviendrait qu'elle fît pour lui, elle comptait se l'attacher étroitement et s'assurer un appui auprès d'une justice à laquelle elle pouvait avoir affaire un jour ou l'autre. Car enfin, elle envoyait beaucoup de lettres en France et à l'étranger, et de telles correspondances étaient alors suspectes. « Allez-vous souvent au théâtre, citoyen ?» À ce moment, le dragon Henri, plus charmant que l'enfant Bathilde, entra dans la chambre. Deux énormes pistolets étaient passés dans sa ceinture. Il baisa la main de la belle citoyenne qui lui dit « Voilà le citoyen Évariste Gamelin, pour qui j'ai passé la journée au comité de sûreté générale, et qui ne m'en sait point de gré. Grondez-le. « Bon, citoyenne, s'écria le militaire, vous venez de voir nos législateurs aux Tuileries. Quel spectacle affligeant! Les représentants d'un peuple libre devraient-ils siéger sous les lambris d'un despote? Les mêmes lustres allumés naguère sur les complots de Capet et les orgies d'Antoinette éclairent aujourd'hui l'éveil de nos législateurs. Oh, cela fait frémir la nature.
« Mon ami, félicitez le citoyen Gamelin, répondit-elle. Il est nommé juré au tribunal révolutionnaire. »«
Mes compliments, citoyen, fit Henri. Je suis heureux de voir un homme de ton caractère investi de ses fonctions. »« Mais à vrai dire, j'ai peu de confiance en cette justice méthodique créée par les modérés de la Convention, en cette némésis débonnaire. » qui ménage les conspirateurs, épargne les traîtres, ose à peine frapper les fédéralistes, et craint d'appeler l'Autrichienne à sa barre. Non, non, c'est pas le tribunal révolutionnaire qui sauvera la République. Ils sont bien coupables, ceux qui, dans la situation désespérée où nous sommes, ont arrêté l'élan de la justice populaire.
Henri, dit la citoyenne Rochemaure, passez-moi ce flacon.
En rentrant chez lui, Gamelin trouva sa mère et le vieux Brotteau qui faisaient une partie de piquet à la lueur d'une chandelle fumeuse. La citoyenne annonçait sans vergogne « Tierce au roi !» Apprenant que son fils était juré, elle l'embrassa avec transport, songeant que c'était pour l'un et l'autre beaucoup d'honneur et que désormais, tous deux mangeraient tous les jours.
« Je suis heureuse et fière d'être la mère d'un juré, » dit-elle. « C'est une belle chose que la justice, et la plus nécessaire de toutes. Sans justice, les faibles seraient vexés à chaque instant. Et je crois que tu jugeras bien, mon Évariste, car, dès l'enfance, je t'ai trouvé juste et bienveillant en toutes choses. Tu ne pouvais souffrir iniquité, et tu t'opposais selon tes forces à la violence. » Tu avais pitié des malheureux, et c'est là le plus beau fleuron d'un juge. Mais dis-moi, Évariste, comment êtes-vous habillé dans ce grand tribunal?
Gamelin lui répondit que les juges se coiffaient d'un chapeau à plumes noires, mais que les jurés n'avaient point de costume uniforme, qu'ils portaient leur habit ordinaire.
Il vaudrait mieux, répliqua la citoyenne, qu'ils portassent la robe et la perruque. Paraîtrait plus respectable. Bien que vêtu le plus souvent avec négligence, oh, tu es beau et tu pars tes habits, mais la plupart des hommes ont besoin de quelques ornements pour paraître considérables. Il vaudrait mieux que les jurés eussent la robe et la perruque.
La citoyenne avait ouï dire que les fonctions de juré au tribunal rapportaient quelque chose. Elle ne se tint pas de demander si l'on y gagnait de quoi vivre honnêtement, car un juré, disait-elle, doit faire bonne figure dans le monde. Elle apprit avec satisfaction que les jurés recevaient une indemnité de 18 livres par séance et que la multitude des crimes contre la sûreté de l'État les obligerait à siéger très souvent. Le vieux Brotteau ramassa les cartes, se leva et dit à Gamelin «
Citoyen, vous êtes investi d'une magistrature auguste et redoutable. Je vous félicite de prêter les lumières de votre conscience à un tribunal plus sûr et moins faillible peut-être que tout autre, parce qu'il recherche le bien et le mal, non point en eux-mêmes et dans leur essence, mais seulement par rapport à des intérêts tangibles et à des sentiments manifestes. Oh, vous aurez à vous prononcer entre la haine et l'amour. Ce qui se fait spontanément, non entre la vérité et l'erreur, dont le discernement est impossible au faible esprit des hommes. Jugeant, d'après les mouvements de vos cœurs, vous ne risquerez pas de vous tromper, puisque le verdict sera bon, pourvu qu'il contente les passions, qui sont votre loi sacrée. Mais c'est égal, si j'étais de notre président, je ferais comme Bridoit, je m'en rapporterais au sort des dés. En matière de justice, c'est encore le plus sûr.
Évariste Gamelin devait entrer en fonction le 14 septembre, lors de la réorganisation du tribunal, divisé désormais en 4 sections avec 15 jurés pour chacune. Les prisons regorgeaient. L'accusateur public travaillait 18 heures par jour. Aux défaites des armées, aux révoltes des provinces, aux conspirations, aux complots, aux trahisons, la Convention opposait la terreur. Les dieux avaient soif. La première démarche du nouveau juré fut de faire une visite de déférence au président Herman, qui le charma par la douceur de son langage et l'aménité de son commerce. Compatriote et ami de Robespierre, dont il partageait les sentiments, il laissait voir un cœur sensible et vertueux. Il était tout pénétré de ces sentiments humains, trop longtemps étrangers au cœur des juges, et qui font la gloire éternelle d'un Dupaty et d'un Beccaria. Il se félicitait de l'adoucissement des mœurs qui s'était manifesté dans l'ordre judiciaire par la suppression de la torture et des supplices ignominieux ou cruels. Il se réjouissait de voir la peine de mort, autrefois prodiguée et servant naguère encore à la répression des moindres délits, devenue plus rare et réservée aux grands crimes. Pour sa part, comme Robespierre, il l'eût volontiers aboli et tout ce qui ne touchait pas à la sûreté publique. Mais il eût cru trahir l'État en ne punissant pas de mort les crimes commis contre la souveraineté nationale. Tous ses collègues pensaient ainsi. La vieille idée monarchique de la raison d'État inspirait le tribunal révolutionnaire. 8 siècles de pouvoir absolu avaient formé ses magistrats, et c'est sur les principes du droit divin qu'ils jugeaient les ennemis de la liberté. Évariste Gamelin se présenta le même jour devant l'accusateur public, le citoyen Fouquier, qui le reçut dans le cabinet où il travaillait avec son greffier. C'était un homme robuste, à la voix rude, aux yeux de chat, qui portait sur sa large face grêlée, sur son teint de plomb, l'indice des ravages que cause une existence sédentaire et recluse aux hommes vigoureux, fait pour le grand air et les exercices violents. Les dossiers montaient autour de lui comme les murs d'un sépulcre, et visiblement il aimait cette paperasserie terrible qui semblait vouloir l'étouffer. Ses propos étaient d'un magistrat laborieux, appliqué à ses devoirs et dont l'esprit ne sortait pas du cercle de ses fonctions. Son haleine échauffée sentait l'eau-de-vie qu'il prenait pour se soutenir et qui ne semblait pas monter à son cerveau, tant il y avait de lucidité dans ses propos constamment médiocres. Il vivait dans un petit appartement du palais avec sa jeune femme qui lui avait donné 2 jumeaux. Cette jeune femme, la tante Henriette et la servante Pélagie, composaient toute sa maison. Il se montrait doux et bon envers ses femmes. Enfin, c'était un homme excellent dans sa famille et dans sa profession, sans beaucoup d'idées et sans aucune imagination. Gamelin ne put se défendre de remarquer avec quelque déplaisir combien ces magistrats de l'ordre nouveau ressemblaient d'esprit et de façon aux magistrats de l'ancien régime. Et c'en était. Herman avait exercé les fonctions d'avocat général au conseil d'Artois. Fouquier était un ancien procureur au Châtelet. Ils avaient gardé leur caractère. Mais Évariste Gamelin croyait à la palingénésie révolutionnaire. En quittant le parquet, il traversa la galerie du palais et s'arrêta devant les boutiques où toutes sortes d'objets étaient exposés avec art. Il feuilleta, à l'étalage de la citoyenne Thénault, des ouvrages historiques, politiques et philosophiques. Les chaînes de l'esclavage, essais sur le despotisme, les crimes des reines. Dans le bonheur, songea-t-il, ce sont des esprits républicains. Et il demanda à la libraire si elle en vendait beaucoup de ces livres-là. Paul secoua la tête. « On vend que des chansons et des romans. » Et tirant un petit volume d'un tiroir, « Voici, ajouta-t-elle, quelque chose de bon. » Évariste lut le titre « La religieuse en chemise ». Il trouva devant la boutique voisine Philippe Desmahis, qui, superbe et tendre, parmi les hôtes de senteurs, les poudres et les sachets de la citoyenne Saint-Georges, assurait la belle marchande de son amour, lui promettait de lui faire son portrait et lui demandait un moment d'entretien dans le jardin des Tuileries le soir. Il était beau. La persuasion coulait de ses lèvres et jaillissait de ses yeux. La citoyenne Saint-Georges l'écoutait en silence et, prête à le croire, baissait les yeux. Pour se familiariser avec les terribles fonctions dont il était investi, le nouveau juré voulut, mêlé au public, assister à un jugement du tribunal. Il gravit l'escalier où un peuple immense était assis comme dans un amphithéâtre et il pénétra dans l'ancienne salle du Parlement de Paris. On s'étouffait pour voir juger quelque général. Car alors, comme disait le vieux Brotteau, la Convention, à l'exemple du gouvernement de Sa Majesté britannique, faisait passer en jugement les généraux vaincus, à défaut des généraux traîtres qui ceux-ci ne se laissent point juger. Ce n'est point, ajoutait Brotteau, qu'un général vaincu soit nécessairement criminel, car de toute nécessité, il en faut un dans chaque bataille, mais il n'est rien comme de condamner à mort un général pour donner du cœur aux autres. Il en avait déjà passé plusieurs sur le fauteuil de l'accusé, de ces militaires légers et têtus, cervelle d'oiseau dans ses crânes de bœuf. Celui-là n'en savait guère plus sur les sièges et les batailles qu'il avait conduits que les magistrats qui l'interrogeaient. L'accusation et la défense se perdaient dans les effectifs, les objectifs, les munitions, les marches et les contre-marches. Et la foule des citoyens qui suivaient ces débats obscurs et interminables voyait derrière le militaire imbécile la patrie ouverte et déchirée, souffrant mille morts. Et du regard et de la voix, ils pressaient les jurés, tranquilles à leur banc, d'asséler leur verdict comme un coup de massue sur les ennemis de la République. Évariste le sentait ardemment. Ce qu'il fallait frapper en ce misérable, c'étaient les deux monstres affreux qui déchiraient la patrie, la révolte et la défaite. Il s'agissait bien vraiment de savoir si ce militaire était innocent ou coupable. Quand la Vendée reprenait courage, quand Toulon se livrait à l'ennemi, quand l'armée du Rhin reculait devant les vainqueurs de Mayence, quand l'armée du Nord, retirée au camp de César, pouvait être enlevée en un coup de main par les impériaux, les Anglais, les Hollandais, maîtres de Valenciennes, ce qu'il apportait, c'était d'instruire les généraux à vaincre ou à mourir. En voyant ce soulard infime et abêti, qui à l'audience se perdait dans ses cartes comme il s'était perdu là-bas, dans les plaines du Nord, Gamelin, pour ne pas crier avec le public « à mort !» sortit précipitamment de la salle. À l'assemblée de la section, le nouveau juré reçut les félicitations du président Olivier, qui lui fit jurer sur le vieux maître hôtel des Barnabites, transformé en hôtel de la patrie, d'étouffer dans son âme, au nom sacré de l'humanité, toute faiblesse humaine. Gamelin, la main levée, prit à témoin de son serment les mânes augustes de Marat, martyr de la liberté, dont le buste venait d'être posé contre un pilier de la ci-devant église, en face du buste de Lepelletier. Quelques applaudissements retentirent, mêlés à des murmures. L'assemblée était agitée. À l'entrée de la nef, une groupe de sectionnaires armés de piques vociférait. « Il est anti-républicain, dit le président, de porter des armes dans une réunion d'hommes libres. » Et il ordonna de déposer aussitôt les fusils et les piques dans la ci-devant sacristie. Un bossu, l'œil vif et les lèvres retroussées, le citoyen beau visage du comité de vigilance, vint occuper la chaire devenue la tribune et surmontée d'un bonnet rouge. « Les généraux nous trahissent, dit-il, et livrent nos armées à l'ennemi. Les impériaux poussent des parties de cavalerie autour de Péronne et de Saint-Quentin. Toulon a été livré aux Anglais, qui débarquent 14 000 hommes. Les ennemis de la République conspirent au sein même de la Convention. Dans la capitale, d'innombrables complots sont ourdis pour délivrer l'Autrichienne. Et au moment que je parle, le bruit court que le fils Capet, évadé du temple, est porté en triomphe à Saint-Cloud. On veut relever en sa faveur le trône du tyran. L'enchérissement des vivres, la dépréciation des assignats sont l'effet des manœuvres accomplies dans nos foyers, sous nos yeux, par les agents de l'étranger. Au nom du salut public, je somme le citoyen juré d'être impitoyable pour les conspirateurs et les traîtres. Tandis qu'il descendait de la tribune, des voix s'élevaient dans l'assemblée. « À bas le tribunal révolutionnaire ! À bas les modérés !» Gras et le teint fleuri, le citoyen Dupont est né, menuisier sur la place de Thionville, monta à la tribune, désireux, disait-il, d'adresser une question au citoyen juré. Et il demanda à Gamelin quelle serait son attitude dans l'affaire des Brissotin et de la veuve Capet. Évariste était timide et ne savait point parler en public. Mais l'indignation l'inspira. Il se leva, pâle, et dit d'une voix sourde « Je suis magistrat. Je ne relève que de ma conscience. Toute promesse que je vous ferais serait contraire à mon devoir. » Je dois parler au tribunal et me taire partout ailleurs. Je ne vous connais plus. Je suis juge. Je ne connais ni ami ni ennemi. L'assemblée, diverse, incertaine et flottante, comme toutes les assemblées, approuva. Mais le citoyen Dupont aîné revint à la charge. Il ne pardonnait pas à Gamelin d'occuper une place qu'il avait lui-même convoitée. « Je comprends, dit-il, j'approuve même les scrupules du citoyen juré. On le dit patriote, c'est à lui de voir si sa conscience lui permet de siéger dans un tribunal destiné à détruire les ennemis de la République et résolu à les ménager. Il a des complicités auxquelles un bon citoyen doit se soustraire. N'est-il pas avéré que plusieurs jurés de ce tribunal se sont laissés corrompre par l'or des accusés ? Et que le président Montanet a perpétré un faux pour sauver la tête de la fille Cordet. » À ces mots, la salle retentit d'applaudissements vigoureux. Les derniers éclats remontaient encore aux voûtes quand Fortuné Trubert monta à la tribune. Il avait beaucoup maigri en ces derniers mois. Sur son visage pâle, des pommettes rouges perçaient la peau. Ses paupières étaient enflammées et ses prunelles vitreuses. « Citoyen, dit-il d'une voix faible et un peu haletante, étrangement pénétrante, on ne peut suspecter le tribunal révolutionnaire sans suspecter en même temps la Convention et le comité de salut public dont il émane. Le citoyen Beauvisage nous a alarmés en nous montrant le président Morat altérant la procédure en faveur d'un coupable. » Mais que n'a-t-il ajouté pour notre repos que sur la dénonciation de l'accusateur public, Montanet a été destitué et emprisonné ? Ne peut-on veiller au salut public sans jeter partout la suspicion ?
N'y a-t-il plus de talent ni de vertu à la Convention? Robespierre, Couthon, Saint-Just ne sont-ils pas des hommes honnêtes? Il est remarquable que les propos les plus violents sont tenus par des individus qu'on n'a jamais vus combattre pour la République. Ils ne parleraient pas autrement s'ils voulaient la rendre haïssable. Citoyens, moins de bruit et plus de besogne. C'est avec les canons et non avec des cris aériens que l'on sauvera la France. La moitié des caves de la section n'ont pas encore été fouillées. Plusieurs citoyens détiennent encore des quantités considérables de bronze. Nous rappelons aux riches que les dons patriotiques sont pour eux la meilleure des assurances. Je recommande à votre libéralité les filles et les femmes de nos soldats qui se couvrent de gloire à la frontière et sur la Loire. L'un d'eux, le hussard Pommier, Augustin, précédemment apprenti sommelier rue de Jérusalem, le 10 du mois dernier, devant Condé, menant des chevaux boire, fut assailli par 6 cavaliers autrichiens. Il en tua 2 et ramena les autres prisonniers. Je demande que la section déclare que Pommier Augustin fait son devoir. Ce discours fut applaudi et les sectionnaires se séparèrent au cri de « Vive la République !» Demeurés seuls dans la nef avec Trubert, Gamelin lui serra la main. « Merci, mais comment vas-tu ?»«
Oh, très bien, très bien !» répondit Trubert en crachant avec un hoquet du sang dans son mouchoir. « Oh, la République a beaucoup d'ennemis, au dehors et au dedans, et notre section en compte pour sa part un assez grand nombre. C'est pas avec des cris railleries, mais avec du fer et des lois qu'on fonde les empires. Bonsoir, Gamelin, j'ai quelques lettres à écrire. » Et il s'en alla, son mouchoir sur les lèvres, dans la ci-devant sacristie. La citoyenne veuve Gamelin, sa cocarde désormais mieux ajustée à sa coiffure, avait pris du jour au lendemain une gravité bourgeoise, une fierté républicaine et le digne maintien qui sied à la mère d'un citoyen juré. Le respect de la justice dans lequel elle avait été nourrie, l'admiration que, depuis l'enfance, lui inspiraient la robe et la simarre, la sainte terreur qu'elle avait toujours éprouvée à la vue de ces hommes à qui Dieu lui-même cède sur la terre son droit de vie et de mort, ces sentiments lui rendaient auguste, vénérable et saint ce fils que naguère elle croyait encore presque un enfant. Dans sa simplicité, elle concevait la continuité de la justice à travers la Révolution aussi fortement que les législateurs de la Convention concevaient la continuité de l'État dans la mutation des régimes, et le tribunal révolutionnaire lui apparaissait égal en majesté à toutes les juridictions anciennes qu'elle avait apprises à révérer. Le citoyen Brotteau montrait au jeune magistrat de l'intérêt mêlé de surprise et une déférence forcée. Comme la citoyenne veuve Gamelin, il considérait la continuité de la justice à travers les régimes, mais, au rebours de cette dame, il méprisait les tribunaux révolutionnaires à l'égal des cours de l'Ancien Régime. N'osant exprimer ouvertement sa pensée et ne pouvant se résoudre à se taire, il se jetait dans des paradoxes que Gamelin comprenait tout juste assez pour en soupçonner l'incivisme. « L'auguste tribunal où vous allez bientôt siéger, lui dit-il une fois, a été institué par le Sénat français pour le salut de la République. Ce fut certes une pensée vertueuse de nos législateurs que de donner des juges à leurs ennemis. Bon, j'en conçois la générosité, mais je ne la crois pas politique. Il eût été plus habile à eux, il me semble, de frapper dans l'ombre leurs plus irréconciliables adversaires et de gagner les autres par des dons ou des promesses. Un tribunal frappe avec lenteur et fait moins de mal que de peur. Il est surtout exemplaire. L'inconvénient du vôtre est de réconcilier tous ceux qui l'effraient et de faire ainsi d'une cohue d'intérêts et de passions contraires un grand parti capable d'une action commune et puissante. Vous semez la peur,
Et c'est la peur plus que le courage qui enfante les héros. Puissiez-vous, citoyen Gamelin, ne pas voir un jour éclater contre vous des prodiges de peur. La gravure d'Emmaï, amoureux cette semaine-là d'une fille du palais Royalité, la brune Flora, une géante, avait trouvé pourtant 5 minutes pour féliciter son camarade et lui dire qu'une telle nomination honorait grandement les beaux-arts. Élodie elle-même, bien qu'à son insu, elle détesta toute chose révolutionnaire et qui craignait les fonctions publiques comme les plus dangereuses rivales qui puissent lui disputer le cœur de son amant, la tendre Élodie subissait l'ascendant d'un magistrat appelé à se prononcer dans des affaires capitales. D'ailleurs, la nomination d'Évariste aux fonctions de juré produisait autour d'elle des effets heureux dont sa sensibilité trouvait à se réjouir. Le citoyen Jean Blaise vint dans l'atelier de la place de Thionville embrasser le juré avec un débordement de mâle tendresse. Comme tous les contre-révolutionnaires, il éprouvait de la considération pour les puissances de la République. Et depuis qu'il avait été dénoncé pour fraude dans les fournitures de l'armée, le tribunal révolutionnaire lui inspirait une crainte respectueuse. Il se voyait personnage de trop d'apparence et mêlé à trop d'affaires pour goûter une sécurité parfaite. Et le citoyen Gamelin lui paraissait un homme aménagé. Enfin, on était bon citoyen, ami des lois. Il tendit la main au peintre magistrat, se montra cordial et faria patriote, favorable aux arts et à la liberté. Gamelin, généreux, serra cette main largement tendue. « Citoyen Évariste Gamelin, dit Jean Blaise, je fais appel à votre amitié et à vos talents. Je vous emmène demain pour 48 heures à la campagne. Vous déciderez et nous causerons. » Plusieurs fois, chaque année, le marchand d'estampes faisait une promenade de 2 ou 3 jours en compagnie de peintres qui dessinaient sur ses indications des paysages et des ruines. Saisissant avec habileté ce qui pouvait plaire au public, il rapportait de ses tournées des morceaux qui, terminés dans l'atelier et gravés avec esprit, faisaient des estampes à la sanguine ou en couleur dont il tirait bon profit. D'après ses croquis, il faisait exécuter aussi des dessus de portes et des trumeaux qui se vendaient autant et mieux que les ouvrages décoratifs d'Hubert Robert. Cette fois, il voulait emmener le citoyen Gamelin pour esquisser des fabriques d'après nature, tant le juré avait pour lui grandi le peintre. 2 autres artistes étaient de la partie, le graveur d'Emmaï, qui dessinait bien, et l'obscur Philippe Dubois, qui travaillait excellemment dans le genre de Robert. Selon la coutume, la citoyenne Élodie, avec sa camarade la citoyenne Hazard, accompagnait les artistes. Jean Blaise, qui savait unir au souci de ses intérêts le soin de ses plaisirs, avait aussi invité à cette promenade la citoyenne Thévenin, actrice du vaudeville, qui passait pour sa bonne amie.